Suite et fin de l'enregistrement de notre encyclique de Paul VI, Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium. Chapitre 5. L'année liturgique. Sens de l'année liturgique. Notre Mère, la Sainte Église, estime qu'il lui appartient de célébrer l'œuvre salvifique de son divin époux par une commémoration sacrée, à jour fixe, tout au long de l'année. Chaque semaine, au jour qu'elle a appelé « jour du Seigneur », elle fait mémoire de la résurrection du Seigneur, qu'elle célèbre encore une fois par an, en même temps que sa bienheureuse passion, par la grande solennité de Pâques. Et elle déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l'année, de l'incarnation et jusqu'à l'ascension, jusqu'au jour de la Pentecôte, et jusqu'à l'attente de la bienheureuse espérance et de l'avènement du Seigneur. Tout en célébrant ainsi les mystères de la rédemption, elle ouvre aux fidèles les richesses de la puissance et des mérites de son Seigneur. De la sorte, ces mystères sont en quelque manière rendus présents tout au long du temps, les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du salut. En célébrant ce cycle annuel des mystères du Christ, la Sainte Église vénère avec un particulier amour la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, qui est unie à son Fils dans l'œuvre salutaire par un lien indissoluble. En Marie, l'Église admire et exalte le fruit le plus éminent de la rédemption, et comme dans une image très pure, elle contemple avec joie ce qu'elle-même désire et espère être tout entière. En outre, l'Église a introduit dans le cycle annuel les mémoires des martyrs et des autres saints qui, élevés à la perfection par la grâce multiforme de Dieu, ayant déjà obtenu possession du salut éternel, chantent à Dieu dans le ciel une louange parfaite et intercèdent pour nous. Dans les anniversaires des saints, l'Église proclame le mystère pascal en ces saints qui ont souffert avec le Christ et sont glorifiés avec lui. Et elle propose aux fidèles leur exemple qui les attire tous au Père par le Christ, et par leur mérite, elle implore les bienfaits de Dieu. Enfin, en divers temps de l'année, selon des disciplines traditionnelles, l'Église réalise la formation des fidèles par des activités spirituelles et corporelles, par l'instruction, la prière, les œuvres de pénitence et de miséricorde. C'est pourquoi le Concile a jugé bon de décréter ce qui suit. Revalorisation du dimanche. L'Église célèbre le mystère pascal en vertu d'une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ. Chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur ou dimanche, ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler pour que, entendant la parole de Dieu et participant à l'Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, et rendre grâce à Dieu qui les a régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordiale qu'il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu'il devienne aussi jour de joie et de cessation du travail. Les autres célébrations, à moins qu'elles ne soient véritablement de la plus haute importance, ne doivent pas l'emporter sur lui, car il est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique. Révision de l'année liturgique. L'année liturgique sera révisée de telle sorte que, en gardant ou en restituant les coutumes et les disciplines traditionnelles attachées au temps sacré, en se conformant aux conditions de notre époque, on maintienne leur caractère originel pour nourrir comme il faut la piété des fidèles par la célébration des mystères de la rédemption chrétienne, mais surtout du mystère pascal. Les adaptations, selon les conditions locales, si elles étaient nécessaires, se feront conformément aux articles 39 et 40. On orientera l'esprit des fidèles avant tout vers les fêtes du Seigneur, par lesquelles se célèbrent pendant l'année les mystères du salut. Par suite, le propre du temps recevra la place qui lui revient au-dessus des fêtes des saints, pour que le cycle entier des mystères du salut soit célébré comme il se doit. Le carême. Le double caractère du temps du carême qui surtout par la commémoration ou la préparation du baptême et par la pénitence invite plus instamment les fidèles à écouter la parole de Dieu et à vaquer à la prière, et les dispose ainsi à célébrer le mystère pascal, ce double caractère, aussi bien dans la liturgie que dans la catéchèse liturgique, sera mis plus pleinement en lumière. Par suite, les éléments baptismaux de la liturgie quadragésimale seront employés plus abondamment, et certains, selon l'opportunité, seront restitués à partir de la tradition antérieure. On en dira autant des éléments pénitentiels. En ce qui concerne la catéchèse, on inculquera aux fidèles, en même temps que les conséquences sociales du péché, cette nature propre de la pénitence, qui déteste le péché en tant qu'il est une offense à Dieu. On ne passera pas sous silence le rôle de l'Église dans l'action pénitentielle et on insistera sur la prière pour les pécheurs. La pénitence du temps de carême ne doit pas être seulement intérieure et individuelle, mais aussi extérieure et sociale. La pratique de la pénitence, selon les possibilités de notre époque et des diverses régions et selon les conditions des fidèles, sera favorisée et par les autorités mentionnées à l'article 22 recommandée. Cependant, le jeûne pascal, le vendredi de la Passion et de la mort du Seigneur, sera sacré. Il devra être partout observé et, selon l'opportunité, être même étendu au samedi saint pour que l'on parvienne avec un cœur élevé et libéré aux joies de la résurrection du Seigneur. La fête des saints. Selon la tradition, les saints sont l'objet d'un culte dans l'Église et l'on y vénère leurs reliques authentiques et leurs images. Les fêtes des saints proclament les merveilles du Christ chez ses serviteurs et offrent aux fidèles des exemples opportuns à imiter. Pour que les fêtes de saints ne l'emportent pas sur les fêtes qui célèbrent les mystères mêmes du salut, le plus grand nombre d'entre elles seront laissées à la célébration de chaque Église, nation ou famille religieuse particulière. On n'étendra à l'Église universelle que les fêtes commémorant des saints qui présentent véritablement une importance universelle. Chapitre 6. La musique sacrée. Dignité de la musique sacrée. La tradition musicale de l'Église universelle constitue un trésor d'une valeur inestimable qui l'emporte sur les autres arts, du fait surtout que, chant sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle. Certes, le chant sacré a été exalté tant par la Sainte Écriture que par les pères et par les pontifes romains. Ceux-ci, à une époque récente, à la suite de Saint Pie X, ont mis en lumière de façon plus précise la fonction ministérielle de la musique sacrée dans le service divin. C'est pourquoi la musique sacrée sera d'autant plus sainte qu'elle sera en connexion plus étroite avec l'action liturgique, en donnant à la prière une expression plus agréable, en favorisant l'unanimité ou en rendant les rites sacrés plus solennels. Mais l'Église approuve toutes les formes d'art véritables, si elles sont dotées des qualités requises, et elle les admet pour le culte divin. Le Saint-Concile, conservant donc les normes et les préceptes de la tradition et de la discipline ecclésiastique, et considérant la fin de la musique sacrée, qui est la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles, a statué ce qui suit. La liturgie solennelle. L'action liturgique présente une forme plus noble lorsque les offices divins sont célébrés solennellement avec chant, que les ministres sacrés y interviennent et que le peuple y participe activement. Quant à la langue à employer, on observera les prescriptions de l'article 36 pour la messe, de l'article 54 pour les sacrements, de l'article 63 pour l'office divin, de l'article 101. Le trésor de la musique sacrée sera conservé et cultivé avec la plus grande sollicitude. Les scola cantorum seront assidûment développés, surtout auprès des églises cathédrales. Cependant, les évêques et les autres pasteurs d'âme veilleront avec zèle à ce que dans n'importe quelle action sacrée, qui doit s'accomplir avec chant, toute l'assemblée des fidèles puisse assurer la participation active qui lui revient en propre, conformément aux articles 28 et 30. La formation musicale. On accordera une grande importance à l'enseignement et à la pratique de la musique dans les séminaires, les noviciats de religieux, des deux sexes et leurs maisons d'études, et aussi dans les autres institutions et écoles catholiques. Pour assurer cette éducation, les maîtres chargés d'enseigner la musique sacrée seront formés avec soin. On recommande en outre d'ériger, là où c'est opportun, des instituts supérieurs de musique sacrée. Aux musiciens et chanteurs, surtout aux enfants, on donnera aussi une authentique formation liturgique. Chant grégorien et polyphonie. L'Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine. C'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toute chose égale d'ailleurs, doit occuper la première place. Les autres genres de musique sacrée, mais surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus de la célébration des offices divins, pourvu qu'ils s'accordent avec l'esprit de l'action liturgique, conformément à l'article 30. L'édition des livres de chants grégoriens. On achèvera l'édition typique des livres de chants grégoriens. Bien plus, on procurera une édition plus critique des livres déjà édités postérieurement à la restauration de Saint Pidis. Il convient aussi que l'on procure une édition contenant des mélodies plus simples à l'usage des petites églises. Le chant religieux populaire. Le chant religieux populaire sera intelligemment favorisé pour que, dans les exercices pieux et sacrés, et dans les actions liturgiques elles-mêmes, conformément aux normes et aux prescriptions des rubriques, les voix des fidèles puissent se faire entendre. La musique sacrée dans les pays de mission. Puisque dans certaines régions, surtout en pays de mission, on trouve des peuples possédant une tradition musicale propre, qui tient une grande place dans leur vie religieuse et sociale, on accordera à cette musique l'estime qui lui est due et la place convenable, aussi bien en formant leur sens religieux qu'en adaptant le culte à leur génie, dans l'esprit des articles 39 et 40. C'est pourquoi dans la formation musicale des missionnaires, on veillera avec soin à ce que, dans la mesure du possible, ils soient capables de promouvoir la musique traditionnelle de ces peuples, tant à l'école que dans les actions sacrées. L'orgue et les autres instruments de musique. On estimera hautement, dans l'Église latine, l'orgue à tuyaux, comme l'instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l'Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel. Quant aux autres instruments, selon le jugement et le consentement de l'autorité territoriale compétente, conformément aux articles 22, 36 et 40, il est permis de les admettre dans le culte divin selon qu'ils sont ou peuvent devenir adaptés à un usage sacré, qui s'accorde à la dignité du temple et qu'il favorise véritablement l'édification des fidèles. Mission des compositeurs. Les musiciens imprégnés d'esprit chrétien comprendront qu'ils ont été appelés à cultiver la musique sacrée et à accroître son trésor. Ils composeront les mélodies qui présentent les marques de la véritable musique sacrée et qui puissent être chantées non seulement par les grandes scola cantorum, mais qui conviennent aussi aux petites et favorisent la participation active et toute l'assemblée des fidèles. Les textes destinés aux chants sacrés seront conformes à la doctrine catholique et même seront tirés de préférence des saintes écritures et des sources liturgiques. Chapitre 7. L'art sacré et le matériel du culte. Dignité de l'art sacré. Parmi les plus nobles activités de l'esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-arts, mais surtout l'art religieux et ce qui en est le sommet, l'art sacré. Par nature, il vise à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie de Dieu, et il se consacre d'autant plus à accroître sa louange et sa gloire qui n'ont pas d'autre propos que de contribuer le plus possible par leurs œuvres à tourner les âmes humaines vers Dieu. Aussi la vénérable Mère Église fut-elle toujours amie des beaux-arts, et elle n'a jamais cessé de requérir leur noble ministère, surtout afin que les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les réalités célestes, et elle n'a jamais cessé de former des artistes. L'Église s'est même toujours comportée en juge des beaux-arts, discernant parmi les œuvres des artistes celles qui s'accordaient avec la foi, la piété et les lois traditionnelles de la religion et qui seraient susceptibles d'un usage sacré. L'Église a veillé avec un zèle particulier à ce que les objets sacrés contribuent de façon digne et belle à l'éclat du culte, tout en admettant, soit dans les matériaux, soit dans les formes, soit dans la décoration, les changements introduits au cours des âges par les progrès de la technique. Les pères ont donc décidé en ces matières de décréter ce qui suit. Les styles artistiques. L'Église n'a jamais considéré aucun style artistique comme lui appartenant en propre. Mais selon le caractère et les conditions des peuples, et selon les exigences des divers rites, elle a admis les genres de chaque époque, produisant au cours des siècles un trésor artistique qu'il faut conserver avec tout le soin possible. Que l'art de notre époque et celui de tous les peuples et de toutes les régions est lui aussi, dans l'Église, liberté de s'exercer, pourvu qu'il serve les édifices et les rites sacrés, avec le respect et l'honneur qui leur sont dus. Si bien qu'il soit à même de joindre sa voix à cet admirable concert de gloire que les plus grands hommes ont chanté en l'honneur de la foi catholique au cours des siècles passés. Les ordinaires veilleront à ce que, en promouvant et favorisant un art véritablement sacré, ils aient en vue une noble beauté plutôt que la seule somptuosité. Ce que l'on doit entendre aussi des vêtements et des ornements sacrés. Les évêques veilleront aussi à ce que les œuvres artistiques, qui sont inconciliables avec la foi et les mœurs ainsi qu'avec la piété chrétienne, qui blessent le sens vraiment religieux, ou par la dépravation des formes ou par l'insuffisance, la médiocrité ou le mensonge de leur art, soient soigneusement écartées des maisons de Dieu et des autres lieux sacrés. Dans la construction des édifices sacrés, on veillera attentivement à ce que ceux-ci se prêtent à l'accomplissement des actions liturgiques et favorisent la participation active des fidèles. Les images sacrées. On maintiendra fermement la pratique de proposer dans les églises des images sacrées à la vénération des fidèles. Mais elles seront exposées en nombre restreint et dans une disposition appropriée pour ne pas susciter l'étonnement du peuple chrétien et ne pas favoriser une dévotion mal réglée. Pour juger les œuvres d'art, les ordinaires des lieux entendront la commission diocésaine d'art sacré et, le cas échéant, d'autres personnes particulièrement expertes, ainsi que les commissions mentionnées aux articles 44, 45, 46. Les ordinaires veilleront avec zèle à ce que le mobilier sacré ou les œuvres de prix, en tant qu'ornement de la maison de Dieu, ne soient pas aliénés ou détruits. La formation des artistes. Les évêques par eux-mêmes ou par des prêtres qualifiés, doués de compétences et d'amour de l'art, s'occuperont des artistes pour les imprégner de l'esprit de l'art sacré et de la liturgie. De plus, on recommande la création d'écoles ou d'académies d'art sacré pour la formation des artistes dans les régions où on le jugera bon. Mais tous les artistes qui, conduits par leur talent, veulent servir la gloire de Dieu dans la Sainte Église, se rappelleront toujours qu'il s'agit d'imiter religieusement en quelque sorte le Dieu créateur et de produire des œuvres destinées au culte catholique, à l'édification des fidèles ainsi qu'à leur piété et à leur formation religieuse. Révision de la législation sur l'art sacré. Les canons et statuts ecclésiastiques qui concernent la réalisation matérielle de ce qui relève du culte divin, surtout quant à la structure digne et adaptée des édifices, la forme et la construction des autels, la noblesse, la disposition et la sécurité du tabernacle eucharistique, la situation adaptée et la dignité du baptistère, ainsi que la distribution harmonieuse des images sacrées, de la décoration et de l'ornementation, ces canons et statuts seront le plus tôt possible révisés en même temps que les livres liturgiques, conformément à l'article 25. Ce qui paraît mal accordé à la restauration de la liturgie sera amendé ou supprimé, et ce qui la favorise sera conservé ou introduit. En ce domaine, surtout en ce qui concerne les matières et les formes du mobilier sacré et des vêtements, faculté est accordée aux conférences territoriales d'évêques d'opérer des adaptations aux nécessités et aux mœurs locales, conformément à l'article 22 de la présente Constitution. La formation artistique des clercs. Les clercs, pendant le cours de leurs études philosophiques et théologiques, seront instruits aussi de l'histoire et de l'évolution de l'art sacré, ainsi que des saints principes sur lesquels doivent se fonder les œuvres d'art sacré, afin qu'ils apprécient et conservent les monuments vénérables de l'Église et qu'ils soient capables de donner des conseils appropriés aux artistes dans la réalisation de leurs œuvres. Les insignes pontificaux. Il convient que l'emploi des insignes pontificaux soit réservé aux personnages ecclésiastiques qui jouissent du caractère épiscopal ou d'une juridiction particulière. Déclaration du Deuxième Concile du Vatican sur la révision du calendrier. Le Saint Concile œcuménique deuxième du Vatican, estimant d'une grande importance les désirs de beaucoup en faveur de la fixation de la fête de Pâques à un dimanche déterminé et de la stabilisation du calendrier, après avoir attentivement pesé les conséquences possibles de l'introduction d'un nouveau calendrier, déclare ce qui suit. Le Saint-Concile ne s'oppose pas à ce que la fête de Pâques soit fixée à un dimanche déterminé dans le calendrier grégorien. Avec l'assentiment de ceux à qui importe cette question, surtout des frères séparés de la communion avec le siège apostolique. En outre, le Saint-Concile déclare qu'il ne s'oppose pas au projet qui vise à introduire dans la société civile un calendrier perpétuel. Mais parmi les divers systèmes qui sont imaginés pour établir un calendrier perpétuel et l'introduire dans la société civile, l'Église ne s'oppose pas à cela seulement qui observe et sauvegarde la semaine de 7 jours avec le dimanche, sans intercaler aucun jour hors de la semaine, de telle sorte que la succession soit laissée intacte, à moins que n'interviennent des motifs très graves dont le siège apostolique aurait à juger. Tout l'ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette constitution ont plu au Père du Concile. Et nous, en vertu du pouvoir apostolique que nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en concile soit promulgué pour la gloire de Dieu. Rome, à Saint-Pierre, le 4 décembre 1963. Moi, Paul, évêque de l'Église catholique.